Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron épisode 7. Vous le savez, Positron, c'est le zapping de bon plan, l'émission qui vous propose 3 trucs cool en 20 minutes, une émission où vous découvrirez des produits culturels ou redécouvrirez des produits culturels que vous connaissiez dans votre jeunesse mais qui vous avaient un petit peu échappé. On vous parle de séries télé, ou de films, ou de musique, ou de comics, ou de livres, ou même parfois, au hasard, de jeux de plateau, quand on a des petits originaux qui veulent faire les malins dans l'émission. Ah, ah. Ah tiens, à propos, comment vas-tu Cédric Bonnet aujourd'hui?
Ça va.
Tu t'es bien reposé depuis les 2 dernières semaines de l'épisode
précédent?
Ah bah
écoute, moi, toutes les semaines, c'est ou un positron ou un upload, hein. Les gens ne peuvent plus se passer de moi.
Et oui, exactement, c'est tout à fait ça. On a aussi évidemment John Plisken, connu sous son identité civile sous le nom de Philippe Gage. Comment vas-tu? Ah, il s'est muté.
Non, il est parti.
Oui, il a disparu.
Non, je suis là.
Ah, ok, ouf.
Oh, il a, en fait, il a voulu nous faire peur.
Oui, c'est ça, exactement.
Genre, monsieur est sur ciné frissant, alors il essaie de nous faire peur.
Mais monsieur a voulu faire un petit gag, c'est raté, c'est pas grave.
Bon, tu vas bien, toi aussi, depuis 2 semaines, hein.
Oui, ça va très, très bien.
D'accord, très bien. Wink. Eh ben, écoutez, puisque vous allez bien, je vous propose qu'on parle de trucs sympas à faire découvrir aux auditeurs. Et moi, je vais commencer avec une série télé qui s'appelle The Lost Room, la chambre perdue. Vous connaissez The Lost Room? Je vous ai posé la question avant, donc je connais la réponse, mais quand même.
Non, de nom seulement, mais je l'ai pas vu.
D'accord. Eh ben, en fait, The Lost Room, c'est une mini-série, en fait, une série télé qui a été diffusée sur M6 ou Canal+, je ne sais plus. C'est presque, enfin, c'est une série télé, mais qui ne compte que 6 épisodes ou 3 épisodes un peu plus longs, qui est vraiment une histoire complète, qui a, je sais pas, peut-être 4-5 ans, peut-être un petit peu plus, qui est une série de science-fiction, en fait. Donc, quand on parle de science-fiction, généralement, ce qu'on veut, c'est l'histoire et le truc qui va faire que ça va être intéressant. Donc, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Sans complètement spoiler la série, c'est l'histoire... Enfin, comment dire? J'ai presque envie de vous dire, si jamais vous ne voulez absolument rien savoir sur la série, il faut presque arrêter d'écouter maintenant. Et du coup, je suis presque en train de me dire... je vais en parler en dernier, de manière à ce que les gens qui ne veulent pas savoir puissent arrêter d'écouter carrément. Donc, je vais laisser Cédric parler de son positron avant de revenir au mien. C'était pas bien préparé, mais c'est pas du tout un spoiler ce dont je vais parler. Mais enfin, si c'est un petit peu un spoiler, mais pas ça raconte pas toute l'histoire. Mais si vous voulez vraiment rien savoir, ouais, c'est pas mal d'y arriver complètement vierge. Donc,
et puis c'est mieux
Cédric,
comme ça. Moi aussi, je pourrais arrêter d'écouter.
Comme par
ça,
exemple,
je
ouais.
pourrais...
exactement.
Parfait. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'un jeu de plateau. J'en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais il y a une extension qui vient de sortir. Ça s'appelle Crossmaster et c'est fait par Ankama. Alors bon, pour moi, les jeux, c'est aussi des choses culturelles, hein. Ça va de soi.
Oui, oui, non, mais ça va être très très bien, très très bien.
Bon, il existe un jeu vidéo et tout ça, mais je vais pas en parler parce que je trouve pas que ce soit le plus intéressant dans l'histoire. Le plus intéressant, c'est le jeu de plateau avec des petites figurines et c'est une excellente initiation. On va dire aux univers fantastiques et si vous avez des enfants entre 8 et 15 ans qui si vous comme moi vous voulez les réussir à parfaire leur éducation vous pouvez donc les commencer à les faire tomber dans le jeu de plateau grâce à ce jeu-là qui en fait est à la croisée d'un jeu de société et d'un jeu de stratégie. Quand je parle jeu de stratégie, je pense à des Warhammer Battle, enfin tous ces trucs-là, hein, avec des figurines à peindre et tout. Bon là, il n'y a pas besoin de peindre, hein, les figurines sont déjà peintes. Le chara-design, donc les personnages sont super mignons en plus.
Excuse-moi, tu parles en fait de geekifier les enfants, mais à la limite, comme c'est assez accessible, j'imagine que c'est peut-être pas mal aussi pour les gens qui ne jouent pas tellement aux jeux de plateau et qui veulent découvrir, non ?
Exactement, ça marche aussi, je l'ai fait avec ma belle-mère.
Oh, fouf, oula, d'accord.
C'était pas gagné. Mais pourtant, ouais. Elle a bien aimé le jeu. Donc, en plus, il y a des espèces de petits tutos dans le manuel pour apprendre à jouer. Il n'y a pas des kilomètres de règles à apprendre, très franchement. Les parties sont très courtes, c'est moins d'une heure, c'est ce qui est promis sur la boîte, et je peux vous dire qu'en même en général, c'est une demi-heure maxi, quoi. Une fois que les règles sont bien assimilées, c'est une demi-heure maxi. Donc ça se joue à 1 contre 1, mais vous pouvez éventuellement faire du 2 contre 2. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 figurines. Tout ce qui est dans la boîte vous permet de jouer des parties à l'infini. Et l'idée, en fait, c'est que c'est des petites parties, donc avec 4 figurines de chaque côté qui s'affrontent. Et vous devez, c'est tout bête, hein, vous devez décimer le camp adverse pour remporter la partie. Le système de jeu est super bien fait pour qu'à chaque tour, vous avez chacun de votre côté une petite réserve de points, et cette réserve de points s'épuise à chaque tour. Et donc, celui qui a perdu tous ses points se retrouve perdant de la partie. Et quand vous éliminez une figurine du plateau de votre adversaire, il perd autant de points que la valeur de la figurine. C'est-à-dire que plus la figurine que vous anéantissez en face est forte, plus il va perdre ses points vite. Et donc, ça peut aller très, très vite.
S'il a perdu une figurine, après, il est vachement désavantagé.
Il est super désavantagé, ouais. C'est clair. Ouais,
donc, c'est presque fini, quoi. Si tu réussis à choper la première.
Ouais, voilà. Disons que il va falloir qu'il s'acharne sur les tiennes pour réussir à t'avoir. C'est très franchement, le système de jeu est très équilibré. C'est super bien fait. Ils ont sorti une extension il n'y a pas longtemps qui s'appelle Free Ghost. Avec des nouvelles figurines, en fait, dedans. Et il y a des tournois.
Excuse-moi, j'ai peut-être pas suivi. C'est une ambiance genre Heroic Fantasy.
Ouais, Heroic Fantasy, ouais, Medfan plutôt. Après, il y a beaucoup d'humour dans l'univers d'Ankama. Donc, des fois, tu te retrouves avec des choses un peu spéciales. Il y a des super-héros à façon Captain America et tout. Mais,
d'accord.
Mais en fait, ça regroupe tous les personnages de l'univers Ankama, de Dofus, Wakfu et tout ça. Donc, on retrouve un peu de tout dedans. Très franchement, les figurines sont magnifiques. Elles valent pas très cher, parce que si vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez aussi acheter des figurines. Alors, elles sont vendues à un système que j'aime pas trop, mais un système de blind box, c'est-à-dire qu'en gros, vous achetez une boîte, vous savez pas ce qu'il y a dedans, c'est la surprise. Elle vaut 4€ ou 4,50€ la boîte, et à l'intérieur, vous avez une figurine. Évidemment, vous pouvez tomber sur deux fois la même, ou sur une figurine que vous avez déjà. Et c'est pour ça qu'en fait, ils organisent des tournois pendant lesquels vous pouvez aller échanger vos figurines que vous avez en double. Donc c'est assez bien fait. Et puis pareil, dans les tournois organisés dans plein de boutiques, on les retrouve sur le site de Crossmaster, dans des boutiques ou même dans des clubs de jeux de rôle, vous pouvez en fait aller participer à des tournois, et il y a carrément des éléments de décor à placer sur le plateau à gagner. Et je trouve ça super intéressant. C'est des éléments qu'on ne pourra jamais acheter. Donc ça impose d'aller jouer avec des gens si on veut vraiment avoir tous les éléments du jeu, quoi. Et je trouve ça bien pensé. La boîte de base, elle vaut 45€, mais très franchement, vous en avez pour votre argent. Pareil, vous avez 8 figurines, vous avez un plateau de jeu, enfin un double plateau de jeu. Il y a tout un tas de pions et tout. Enfin, il y a des arbres, il y a pas mal de décors. C'est vraiment intéressant. Et tous les gens à qui je l'ai montré ont tous dit mais c'est super beau. Et tous ceux avec qui j'ai joué ont adoré. Hein. Personne ne m'a dit j'aime pas. Alors soit ils sont très polis, soit c'est des fiefs menteurs, mais je pense pas. Tout le monde a aimé, et c'est pour ça que je le recommande, en fait. Alors j'avais mis pour les fans. Disons que si on n'est pas initié par quelqu'un qui connaît, je pense que ça peut vite saouler. Mais si vous avez envie de jouer à un jeu de stratégie qui change du traditionnel risque ou autre, ça peut être une alternative.
Mais c'est super le risque.
Attention, je critique pas le risque. Je dis juste que si t'as envie d'essayer autre chose, eh ben ça peut être pas mal. C'est vraiment à la croisée des demandes du jeu de rôle et du jeu de société classique. Et rien que pour ça, je le recommande, quoi. C'est vraiment très très bien.
Bon, c'est un petit peu pour tout le monde, enfin pour tout le monde autant que le risque, quoi, en fait.
Voilà.
C'est ça l'histoire.
Enfin, tous ceux qui ont envie quand même d'essayer, ouais. Faut pas forcer les gens non plus. Hein.
D'accord.
Mais
ouais, généralement, je l'ai dit plusieurs fois, mais généralement je dis quand dans le système de notation, si je dis pour tout le monde, c'est genre c'est un truc tellement bien que ça transcende le genre. Et on le recommanderait, on pense que n'importe qui, ça pourrait vraiment plaire à n'importe qui, même si quelqu'un n'est pas du tout fan de ce genre de choses.
Bah, moi, tu vois, l'occurrence, ça a l'air de correspondre. Et ça a marché, donc.
Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, donc c'est pour fans, pour tous, quoi, entre les deux. Voilà. Super, donc ça s'appelle Crossmaster avec un K, K-R-O-S Master. Super, merci Cédric.
Merci Cédric.
Philippe, de quoi nous parles-tu donc ?
Alors, je parle d'une série de télé qui s'appelle Hannibal, que Canal Plus diffuse à part. Voilà, alors quand je dis Canal Plus, c'est plus spécialement Canal Plus Série, qui est la toute nouvelle chaîne que Canal Plus vient ou va lancer. 21 septembre. Donc je me rends pas bien compte par rapport à notre émission de ce soir. Hein.
C'est le 19 qu'elle est diffusée, celle-ci.
Ben voilà. Donc dans
deux jours. Si vous écoutez l'émission au moment, c'est compliqué tout ça. Si vous écoutez l'émission au moment où elle sort, le jour où elle sort, eh ben la diffusion commence dans deux jours. Si vous écoutez le lendemain de jour où sort l'émission, eh ben la diffusion c'est demain.
En tout cas, la série, c'est un peu la série que va lancer vraiment un peu que va mettre en avant Canal Plus série. Et donc cette nouvelle chaîne que lance Canal Plus consacrée aux séries télé. Donc Hannibal a commencé l'année dernière aux États-Unis sur la chaîne NBC, il me semble bien. Alors je dis l'année dernière, je crois que je me trompe parce que je crois même que c'était cette année, début 2013. Il y a 12 épisodes qui ont été produits jusque-là sur la première saison. Et voilà, elle a été lancée le 4 avril, excusez-moi. Et donc il y a bien 12 épisodes. Qu'est-ce que c'est Hannibal ? Je dis encore une connerie, il y a 13 épisodes. Pardon, je suis désolé.
Dans Positron, on est des professionnels, si vous voulez.
Mais en fait, il y a un épisode aussi qui a été censuré aux États-Unis.
Exactement. Et
qui a été diffusé en web épisode.
En web épisode sur Internet. Mais je l'ai découvert, en fait, complètement sur le tard. J'avais regardé un premier épisode de cette série, qui est donc une sorte de préquel, comme on dit. Qui se passe avant Le silence des agneaux, le roman de Thomas Harris, qui avait donné lieu à un film complètement génial et culte, à juste titre, de Jonathan Demme en 91. Et donc la série télé, Hannibal, raconte donc comment s'est nouée la relation psychologico-professionnelle entre Hannibal Lecter, à l'époque où il était encore psychiatre et pas du tout et où la police n'avait aucune connaissance de ses agissements du fait que donc c'était un serial killer qui bouffait ses victimes et les servait à bouffer d'ailleurs à ses convives parce que c'était en même temps un grand cuisinier un grand cordon bleu et donc la série raconte comment se sont connus Hannibal Lecter j'ai un trou sur le nom de l'autre personnage principal, mais ça va me revenir tout de suite. Et donc Will Graham, voilà, qui est le personnage de flic qu'incarnait William Peterson dans le film Le Sixième Sens, qui était aussi une adaptation d'un roman de Thomas Harris. Donc le film raconte comment Will Graham, qui est donc un agent au service du FBI, qui est une sorte de super profiler, qui a le don de, lorsqu'il arrive sur une scène de crime, de ressentir exactement, de se mettre vraiment dans la peau du tueur et d'arriver à reconstituer psychologiquement à partir de comment est placé, positionné le cadavre, comment les mutilations, les blessures sur le corps, etc. Il arrive à littéralement revivre la scène en se mettant lui-même dans la peau du tueur. Et donc le FBI utilise ses compétences pour ça, mais le pauvre Will Graham, évidemment, cette espèce de don qu'il a, qui est presque une sorte de pouvoir, presque une sorte de super pouvoir, ça l'affecte beaucoup. Ça le laisse vraiment dans un état psychologique de plus en plus préoccupant au fil des épisodes. Et il y a un responsable du FBI, qui est l'enquêteur Jack Crawford, qui est joué dans la série par Laurence Fishburne. Et ce personnage était joué dans Le Silence des agneaux par Scott Glenn. Et donc Jack Crawford va utiliser ce don incroyable de Will Graham pour l'aider justement à coincer des tueurs en série qui sévissent sur la côte est des États-Unis. Et comme ces enquêtes abîment vraiment psychologiquement le pauvre Will Graham, Jack Crawford décide de le confier aux bons soins du docteur Lecter, qui est un psychiatre qui officie en dehors du FBI, pour l'aider justement, pour aider Uwe Graham justement à gérer cette dérive psychologique et ces dégâts psychologiques que provoquent en lui ces enquêtes. Donc la série raconte ça, si tu veux. Elle raconte comment Will Graham et Hannibal Lecter vont apprendre à faire connaissance. Et en même temps, à chaque épisode, on enquête sur un nouveau meurtre, tout en voyant comment, côté coulisses, le docteur Lecter est quand même un serial killer lui-même. Donc voilà, c'est une série... quand j'ai vu le premier épisode, moi, je me suis un petit peu ennuyé. Mais petit à petit, c'est vraiment le type de série qui vous prend au trip épisode après épisode.
C'est ce que ça veut dire.
Oui, exactement. Et qui est incroyablement sombre et violente pour une série de network. Là, il faut reconnaître que là, NBC a vraiment mis le paquet dans le côté sordide, dans le côté même gore. Il y a des meurtres qui sont extrêmement violents, extrêmement sanglants. Et c'est très, très étonnant. Et il y a une noirceur qui va crescendo au fil des épisodes. J'ai pas vu le tout dernier, justement. Je le garde encore pour la bonne bouche. Mais il y a une vraie montée en intensité dramaturgique de la série, un resserrement des enjeux et une sorte de joute psychologique, de jeu psychologique permanent du chat et la souris entre Lecter entre Hannibal Lecter et Will Graham, qui est vraiment qui en font une série assez passionnante. Et c'est une série qui plaît là encore aussi beaucoup aux femmes parce que
Sophie adore.
Voilà, parce qu'il y a le charme de Mads Mikkelsen qui joue le rôle d'Hannibal Lecter, qu'il joue vraiment de façon très sensuelle, très très charismatique, à des années-lumière de l'interprétation qu'on avait faite Anthony Hopkins dans les films. Et en plus, il y a un accent avec plus ou moins d'humour d'ailleurs qui est énormément mis sur la bouffe en général. Chaque épisode, d'ailleurs, chaque titre d'épisode est un titre en français inspiré d'un plat. Ouais. Donc c'est assez rigolo à ce niveau-là. Donc la série est assez ludique à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est une série qui a vraiment le courant a pris petit à petit au fil des épisodes, aussi bien en termes critiques qu'en termes d'audience. Et j'espère vraiment que la série va totalement s'affirmer dans sa saison 2, parce que là, c'est pour l'instant, ça en a fait une très bonne surprise.
Bah écoute, ça, moi j'aurais pensé qu'une série comme ça, c'était un petit peu du réchauffé, pour rester dans les métaphores.
J'avais la même peur que toi, Fabrice.
Ouais.
Patrick, pardon.
Parce que, ouais, effectivement, tu te dis, bon, c'est un petit peu la mode Dexter, et donc on va ressortir un serial killer. Et aussi, l'autre problème qui me paraissait évident, c'est comment garder le personnage de Hannibal, qui est justement le serial killer, d'une cruauté incroyable, et puis, enfin, pas d'une cruauté, mais, enfin, comment le garder au cœur de cette série où c'est justement le FBI qui fait des enquêtes? Est-ce que ça va pas devenir un petit peu ridicule, un petit peu grotesque d'avoir le mec qui est au milieu du... En même temps, je dis ça, mais Dexter, c'est un petit peu la même chose et ça fonctionne très bien, au moins dans les premières saisons. Mais bon, donc là, tu dis que, effectivement, sur la durée, la saison fonctionne.
Oui, et puis justement, par rapport à cette crainte que tu manifestes, ils ont vraiment, je trouve que les scénaristes ont vraiment su contourner cet écueil potentiel. C'est vrai que Hannibal, donc forcément c'est le titre de la série en plus, c'est donc le personnage principal, mais justement, c'est très finement écrit la façon dont les scénaristes arrivent à concilier le fait que c'est lui c'est un psychopathe, c'est un assassin. On n'élude de rien de la série, n'élude de rien de l'extrême dangerosité du personnage. Et en même temps, il joue sur l'attachement qu'on peut avoir, parce que il y a une véritable relation un début de relation d'amitié qui se noue entre lui et Will Graham, et ça nous fait anticiper d'autant plus justement, et ça nous donne envie d'autant plus d'arriver au moment où ça va basculer, tu vois. Et on se demande, et justement, la série arrive à entretenir ça. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer quand la police va enfin s'apercevoir qu'Hannibal est le tueur en série?
Et Hannibal.
Oh oui, mais tout à fait, bien joué.
Cannibal et cannibal.
Et alors juste la comparaison avec Dexter, elle s'arrête vraiment là, quoi, si tu veux, parce que Dexter à côté d'Hannibal, c'est Disneyland, quoi.
D'accord.
Vraiment, Hannibal est d'une noire. J'insiste, il y a une noirceur dans cette série.
Ouais, mais
qui,
Dexter,
moi...
il est gentil aussi.
Ouais, c'est ça. Dexter, c'est un gentil, et en plus, les premières saisons de Dexter étaient un petit peu plus.
Ah oui, quand même. Les deux premières saisons sont extraordinaires. Oui. Dexter.
Bon, ok, d'accord. Eh ben, écoute, Hannibal, c'est effectivement bon. Si on est adepte de ce genre de choses, sans doute, mais ça donne assez envie.
On aime la cuisine française.
Mais exactement, si on aime la bonne bouffe, la gastronomie. Et je précise juste, c'est donc une série qui a été créée par Brian Fuller, qui est quand même un très grand créateur de la télé américaine, puisque c'est le monsieur qui est derrière des séries comme Pushing Daisies, et Dead Like Me notamment, voilà.
Très très bien Dead Like Me. Je connais pas Pushing Daisies, mais oui.
Mais on retrouve pas mal de dans Hannibal, il y a un univers, il y a une ambiance assez onirique dans Hannibal. Oui. Voilà. Daisies, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Bref, je la recommande.
Ok, super, merci. J'allais dire Jérôme, tu vois, tu m'as appelé Fabrice, je t'appelle Jérôme. Merci voilà, Philippe.
Pas de vengeance.
Oui, c'était un petit peu méchant, j'avoue. Donc, je vais finir moi avec The Lost Room. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez vraiment rien savoir du tout de la série avant de la commencer, arrêtez d'écouter maintenant. Et puis, sinon, bon, c'est pas un gros spoiler, donc vous inquiétez pas. C'est vraiment le début du premier épisode pour vous donner un petit peu l'ambiance. C'est un truc vraiment le genre de série de science-fiction intrigante et intéressante quand on aime la science-fiction, la vraie, la pure science-fiction. D'ailleurs, c'est une série c'est une mini-série qui a été diffusée sur Sci-Fi Channel. Donc, c'est vraiment un truc de science-fiction pure. L'idée, c'est que il y a un type qui trouve une clé et cette clé ouvre n'importe quelle porte. Et quand la porte s'ouvre, elle s'ouvre sur une chambre, the room, une pièce, et c'est toujours la même. Et s'il rentre dans cette pièce, il peut en ressortir où il veut. C'est-à-dire qu'il pense à là où il veut aller, et quand il rouvre la porte, il se retrouve, c'est la porte de là où il voulait aller qui s'ouvre. Donc c'est une sorte de truc de téléportation métaphysique étrange. Donc ça, c'est la base de la série. Et en plus, il y a une sorte de mythologie un petit peu bizarre sur cette chambre, sur cette pièce, parce que on découvre un petit peu au fur et à mesure du temps que tous les objets qui viennent de cette chambre ont des pouvoirs étranges et complètement aléatoires. Mais quand je vous dis complètement aléatoire, c'est vraiment complètement aléatoire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça fait partie du charme du truc. Et dernière petit détail, si on met quelque chose dans la room, si on ferme la porte et qu'on laisse la chose en question, ou si on dérange, on bouge les meubles ou les choses comme ça, on ferme la porte, on la rouvre, tout est revenu comme c'était. Donc, vous pouvez imaginer que si on laisse quelque chose, on peut le perdre. Donc voilà, c'est l'un des ressorts scénaristiques de la série. Je vous en dis pas plus, c'est juste un truc bizarre, bien conçu, avec tout de même le petit bémol que les gens qui sont habitués de ce genre de série voient venir, c'est que à la fin, en fait, tout le truc repose souvent sur l'explication. L'explication
attends,
de ce
deviner.
Que c'est que ce truc.
Je vais essayer d'être devin. À la fin, il ouvre une porte, il rentre dedans, il ferme la porte, sauf qu'il avait laissé la clé de l'autre côté.
Pas exactement.
Ah, bon, dommage.
Non, en fait, à la fin, l'explication de Room,
c'est vrai qu'il faut surtout pas que t'écrives des séries télé.
Ah, mais tu vois, j'avais une fin de série là. Pas. C'est réglé.
Non, ça pourrait être intéressant. Mais ceci dit, ça donne des trucs intéressants, quoi. Évidemment, il y a toute une organisation qui essaye de récupérer les objets qui étaient dans la pièce, et ça donne lieu à des courses poursuites où les mecs, ils essayent de trouver une porte pour pouvoir s'échapper. Tu vois, le mec, il a la clé, il court comme un fou, il essaye de trouver une porte, sauf que les mecs, ils sont allés dans un entrepôt où il y a très peu de pièces, donc très peu de portes, et ils ont brûlé. Enfin bref, ça donne des trucs un petit peu bizarres. La fin est pas hyper satisfaisante. C'est pas dramatique, c'est pas Lost. Où à la fin finalement on se fout de tout ce qui s'était passé et puis c'est juste un truc bizarre, mais c'est un truc qui est impossible à résoudre, quoi. Jamais tu peux pas avoir une explication satisfaisante sur une histoire aussi abracadabrantesque, tu vois.
Notre ami Jacques.
Mais voilà, donc c'est un petit peu frustrant, un petit peu décevant à ce niveau-là à la fin, mais il n'empêche le voyage, l'histoire que vous suivez pendant ces 6 épisodes vaut le coup largement à mon sens. C'est une série de science-fiction vraiment sympathique, comme on n'en voit pas souvent. C'est de la pure science-fiction. C'est pas un truc avec des super-héros ou l'espace ou Dieu sait quoi. C'est vraiment un truc bizarre qui se passe dans le monde et le personnage qui est plongé au milieu de ce phénomène ou qui découvre ce phénomène et ce qui lui arrive. Donc, entre parenthèses, un acteur que vous connaîtrez peut-être, c'est Peter Krause qui jouait dans Six Feet Under.
Six Feet Under, ouais. Ouais.
Voilà. Et aussi Juliana Margulies qui joue dans
Urgence.
Ouais.
dans Urgence, que moi je connais pas trop, mais surtout dans The Good Wife, où elle est tout à fait excellente. Bref,
moi, je dirais plutôt surtout dans Urgence et un peu dans The Good Wife.
Ah. Ben,
non, bon, Philippe, bref, moi, je suis d'accord.
Ouais, écoute, je connais pas bien The Good Wife, mais je sais que Dominique, ouais. Dominique Montet, qui bosse sur le Daily Mars avec moi, adore cette série. Et il a fait un article enflammé sur The Good Wife.
Franchement, c'est bon, on parle pas de The Good Wife ici, mais c'est une série qui a aucune prétention, voilà. Mais qui est vraiment une série de bonne qualité, quoi. C'est un truc, bref, voilà, peu importe. Voilà. Oui, pardon.
Non, mais voilà, c'est exactement ce que Dominique en dit. Il dit que c'est vachement amélioré d'ailleurs en plus au fil des saisons. Voilà.
Ouais, très très bien. Mais bref, bon, The Lost Room, 6 épisodes, ça vaut vraiment le coup. En plus, ça coûte plus rien. Vous la trouvez en DVD à la Fnac à genre 10-15 euros. Il y a même, là, je suis sur le site de la Fnac, en zone 1, 6,68 €.
Ça prendre en location, pareil, tu vois, si c'est
on
parle toujours d'acheter, mais la VOD c'est pas mal aussi, hein.
C'est vrai. Bon, c'est tellement vieux, je sais pas si c'est trouvable en VOD, mais bon, si ça l'est, je vous le recommande. Donc voilà, c'est The Lost Room et ça nous amène à la fin de cette. Ah bah il est sur iTunes en achat à 10 euros. Enfin 11 euros. Bref. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Comme d'habitude, on va donner à nos invités prestigieux l'occasion de nous dire où on les retrouve, à commencer par Philippe Gedge.
Oui, alors on me retrouve donc, comme d'habitude, sur Twitter, le compte @JohnPlisken. J'officie également sur le site du Daily Mars. J'ai oublié dans les émissions précédentes de mentionner que j'avais co-créé ce site. Alors avec Dominique Monté, ça je l'ai déjà dit, mais aussi avec Hervé Quaral. Et je le précise parce que Hervé a fait un boulot absolument incroyable sur la charte graphique du site. Voilà.
Je crois qu'il faut que tu, pour compenser, il faut que tu dises son nom trois fois, puisque là, t'as dit, t'as parlé.
Oh, non,
Hervé Quaral, Hervé Quaral.
Non.
Voilà. Vas-y, trompe. Et donc.
Voilà, c'est bon. Hop, tu l'as éliminé.
Et Charlie Collère également, alias Nicolas, s'il nous écoute, voilà, avant Hervé avait fait déjà beaucoup de boulot également sur le site. Voilà, et puis je m'occupe également d'une émission qui s'appelle Le Grand Frisson sur Frisson Break, qui est une émission hebdomadaire sur l'actualité du cinéma.
Sur Ciné Frisson, tu veux dire.
Sur Ciné Frisson, qui est une chaîne du bouquet Canal Satellite. Voilà.
Super, merci Philippe. Cédric.
Alors moi, vous me retrouvez sur geeking.fr et sur Twitter, @CédricBonnet. Et normalement, au moment où je parle...
Qu'est-ce que tu es en train de nous
nom
dire
de Dieu, nom de Dieu, mais qu'est-ce
mais
que c'est
bon sang, mais qu'est-ce qui se passe
à la télévision aussi.
Ah,
en fait, c'est Geeking.
Positron.
Voilà.
Positron.
C'est Geeking qui est diffusé normalement, au moment où on parle, sur KZTV. Donc une chaîne que vous retrouvez sur toutes les box ADSL, bientôt numéricable, je crois, et sur CanalSat aussi, puisque normalement il devrait être diffusé la rentrée sur CanalSat. Donc voilà, une chaîne qui est spécialisée dans le manga et tout ça, en fait, dans l'animé. Et donc vous avez aussi Geeking, qui normalement est même en clair, au moins sur Freebox, et si les autres box sont à jour, aussi sur les autres box à jour. Voilà.
Super, et bah félicitations, et merci de rester encore avec nous. Dans Positron,
oui.
Parce que maintenant que tu atteins les hauteurs de la télévision.
Ah, maintenant que je rejoins Philippe Gedge, tu vois.
Ah, bah oui, c'est ça.
Non, mais toi, c'est encore mieux parce que toi, tu es devant la caméra. Moi, je n'officie que dans l'ombre.
Ouais, mais ça fait rien. Oui, tu officies quand même.
Bon, bah écoutez, sur ces bons mots et ces congratulations croisées, nous allons vous quitter, non sans vous rappeler encore une fois que vous pouvez retrouver l'émission et les commentaires de l'émission sur le site frenchspin.com, qui est le site qui héberge mes émissions. Vous pouvez me retrouver sur Twitter sur notepatrick, notepatrick.com, ça marche aussi, mais vous pouvez me retrouver sur @notepatrick, et vous pouvez aussi aller laisser des petits commentaires sur iTunes, des commentaires et des notes. Si vous appréciez l'émission, on vous encourage à le faire parce que ça aide les gens à nous découvrir quand le podcast reste dans les top d'iTunes et dans les recommandations d'iTunes. Donc merci à vous si vous prenez le temps, si vous prenez les 5 minutes qu'il vous faut pour faire ça. Bah écoutez, c'est tout. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Positron. Et bien sûr, la semaine prochaine, si vous êtes abonné au flux d'Upload ou si vous aimez Upload, vous retrouverez cette émission également. Upload qui est une émission qui vous recommande des applications pour appareils mobiles. Donc une semaine Upload, une semaine Positron. C'est sympa, c'est pratique et c'est pas cher. À dans 2 semaines. Ciao à tous.
Super, ciao. Magnifique.
Merci, merci. Mmh.